Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping pong.
Gustave Mahler, pour commencer, car notre premier invité a en lui une forme de cosmopolitisme viennois, ce paradis perdu chanté par l'écrivain autrichien Stefan Zweig dans Le Monde d'hier qu'il interprète aujourd'hui seul en scène. En 30 ans de métier, l'ancien élève du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et de Michel Bouquet, entre autres, a en effet été d'un impressionnant cosmopolitisme artistique. Mis en scène par Patrice Chéreau, Luc Bondy, Christian Sciaretti, au cinéma on l'a vu chez Christophe Honoré, Jean-Pierre Jeunet, François Ozon l'a aussi croisé à la télévision partout avec une passion pour les classiques et les contemporains dans un même mouvement sans distinction de classe. Il était fait pour être la voix et le corps de celui qui a incarné la Mittal Europa. Ça se passe en ce moment au Théâtre des Mathurins à Paris. Jérôme Kircher, bonsoir.
Oh, bonsoir.
Vous étiez tellement prédestiné que j'ai envie de vous demander, vous croyez un petit peu au ciel
par
et
rapport
à ces signes.
Par rapport oui. Au truc là. Non, c'est drôle parce que quand j'entendais les informations, j'avais l'impression que c'était pas mon jour de relâche ce soir en fait. J'ai l'impression que ça continuait parce que c'est exactement les mêmes trucs, c'est fou. Hein.
Le monde d'hier et celui d'aujourd'hui.
C'est incroyable, il n'y a pas une info qu'elle a dit, à part la météo, parce que ça, j'en parle pas, mais il n'y a pas une info qui n'est pas dans la pièce à un moment, enfin dans le texte de Zweig à un moment ou à un autre. Quoi. Tout, les masses migratoires, la montée du Front National, l'hypocrisie des extrêmes, même les sociodémocrates, enfin tout, elle a tout dit. Quoi, en fait, ouais. C'est effrayant, je trouve, la vision qu'il avait.
Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel et au diable ?
Lui est un être impur et un homme en cavale à l'image de sa version du Don Juan de Molière, métamorphosé en un film beau et brutal, réalisé pour Arte, avec la complicité, peut-être contre nature, de la Comédie française. Impur et en cavale, lui, le metteur en scène de théâtre qui laisse derrière lui de beaux cadavres égosillés, lui, le comédien hirsute à la douce voix fêlée, lui, le cinéaste, qui fait donc aujourd'hui de Don Giovanni une créature unheimlich, un démon familier, sous les traits d'une rockstar intoxiquée, qui vit en couple avec Sganarel dans une suite de l'hôtel Lutetia, où il y organise des bacchanales en se consumant en étreintes désespérées. Lui, eh bien, c'est Vincent Macaigne. Il nous invite dans la limousine pick-up de Don Juan et Sganarelle, jeudi soir, sur Arte. Bonsoir, Vincent Macaigne.
Bonsoir.
J'avais envie de... Je vous compare là, à votre Don Juan. Vous êtes venu, peut-être, avec quelques tatouages tracés au feutre sous votre chemise en jean?
Non, j'ai rien, quoi.
Même pas une croix renversée, quelque chose d'un peu impie?
Non, rien du tout, quoi. Non, non. Non, j'aimerais bien ressembler plus à Loïc, moi.
Ah, avec son physique de boxeur, avec Corbéry, qui est en votre peur. Don Juan.
Alors, c'est pas vraiment un physique de boxeur que vous nous proposez sur scène, Jérôme Kircher, pardon.
Non.
Vous avez une chaise.
Ça commençait bien, pourtant l'émission commençait bien.
Bah écoute, on vous a dit beaucoup de belles choses. Bah, il faut bien dire ce qu'il y a. Il y a une chaise, il y a une paire de lunettes.
On n'a rien. Au début, on avait plein de trucs au début des répétitions. Vous me dites s'il faut pas parler trop. Hein.
Alors, en même temps, vous êtes à la radio, ça nous arrangerait si vous preniez vos aises et vous dérouliez votre discours. Il y a pas de problème.
Non, au début on avait plein de trucs, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de rien. Quoi. Au début on avait du malheur, et puis on s'est rendu compte que ça il fallait pas quoi. En fait, que c'était vraiment la parole qui suffisait. Ouais.
C'est un texte qui a été écrit donc quelques mois avant le suicide de Stefan Zweig. Il est en exil au Brésil. On est en 1941. Il va se suicider en 1942. Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Quel corps vous lui donnez pour vous à ce Zweig, même si vous nous emmenez dans sa tête par l'adaptation de Laurent Sexy qui est excellente.
Ouais, il a fait un très beau travail rapidement et très bien.
Quel corps vous lui donnez?
Les choses rapides se font bien, n'est-ce pas, Vincent?
À quoi il ressemble pour vous ce Zweig?
En fait, je voulais pas du tout être Zweig. Ça veut dire, ça c'est la seule chose que je voulais pas, c'était avoir la petite moustache, le manteau et tout ça. J'avais envie d'être la parole de Zweig, donc le fantôme. En fait, je pensais à ces gens qu'on voit dans la rue qui se promènent et qui parlent tout seuls. Tu sais, moi dans mon quartier j'en ai deux comme ça, ils parlent tout le temps. Et j'avais envie que ce soit ça, un type qui arrive de dehors. Bon là, finalement, j'arrive pas dehors, mais c'est l'idée qui raconte comme ça le fantôme de Zweig et puis qui après va dans un autre théâtre qui continue sa tournée quoi, ou dans un bar. C'était ça l'idée.
Vincent McCain, vous, c'est pas le fantôme de Don Juan, il est bien là avec son corps de boxeur, je le disais, tatoué avec soin par Sganarelle au petit matin avec son feutre. Vous avez travaillé rapidement, Jérôme Kircher, vous lancez un petit clin d'œil, vous avez travaillé en 14 jours, c'était les contraintes de la Comédie Française et d'Arte.
Oui, c'est les contraintes de l'exercice en fait, de la commande qui a été faite à plusieurs autres réalisateurs, parce que c'est une collection, il y a eu Desplechin, Amalric, Valérie Donzelli
et Valéria Bruni-Tedeschi.
Voilà.
Que du beau monde. Finalement.
Ouais. Mais alors vous, vous reprenez Molière avec la contrainte notamment de respecter le texte, et pourtant vous n'en faites pas un séducteur conquérant. Ça a l'air plus vraiment à l'ordre du jour parce que votre Don Juan, il est entraîné dans le 21e siècle. Et pourtant, il a quelque chose d'admirable. Qu'est-ce qu'il a d'admirable pour vous, Don Juan ?
Mais en tout cas, bon, je peux répondre à cette question de est-ce que Don Juan est un séducteur ? Je sais pas, parce que quand je lis la pièce un peu bêtement de Molière, j'y vois pas un séducteur, parce que j'y vois quelqu'un qui a un statut social et qui va en fait proposer une alternative sociale, par exemple à Mathurine ou à Charlotte, et qui met en contradiction les gens. Je pense que c'est le fantasme de tout le monde de penser vraiment que Don Juan séduit. Il n'y a pas de vraie scène de séduction. Quand il voit Charlotte, il dit tiens, monte pas tes dents, moi je me marie avec toi, puis tu mérites mieux que Pierrot. Et il le dit devant Pierrot. Donc il cherche une altercation, il cherche quelque chose, il cherche à mettre en valeur une forme de brutalité sociale, quoi. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui va se mettre et devant l'idée de Dieu, mais pas de Dieu, mais de l'idée de Dieu. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'ordre moral, que l'ordre social, et où elles sont les limites. Voilà. Donc je réponds par rapport à ça, par rapport à l'idée du séducteur. Parce que je suis pas sûr que même dans la pièce, je vais me faire des ennemis, parce que je sais que des gens croient bec et ongle que c'est un séducteur, mais je pense qu'il y a une confusion avec Casanova.
Mais que bon. Sfag aimait beaucoup d'ailleurs.
Je suis né en 1881. Dans un grand et puissant empire, celui des Habsbourg, mais qu'on ne le cherche pas sur une carte, il en a été effacé sans laisser de traces. J'ai été élevé à Vienne, métropole deux fois millénaire, qu'il m'a fallu quitter comme un criminel avant qu'elle fût humiliée, jusqu'à n'être plus qu'une ville de province allemande. Mon œuvre littéraire a été réduite en cendres dans le pays même où mes livres s'étaient fait des amis de millions de lecteurs. C'est ainsi que je n'ai plus de lien nulle part. Étranger partout. Haute, tout au plus, là où le sort m'est le moins hostile. Même la vraie patrie que mon cœur a élue, l'Europe, est perdue pour moi, depuis que pour la seconde fois, prise de la fièvre du suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. Jamais, je ne le dis pas avec orgueil, mais avec un sentiment de honte, une génération n'est tombée comme la nôtre d'une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale.
Au théâtre des Mathurins, Le Monde d'hier, adaptation de Laurent Saxic, mise en scène Patrick Pineau, qui est votre copain du conservatoire, Jérôme Kircher, seul en scène, vous interprétez donc Stephen Sachs. C'est la première fois que ce texte est adapté au théâtre, pour la première fois donc aujourd'hui. En quoi, c'est facile, mais j'ai envie de vous le demander, ce monde d'hier, c'est celui d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il est devenu, cet homme européen ?
En fait, c'est pas le monde d'aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire, on veut pas non plus dire ah, c'était la même chose. Attention. Mais quand même, les gens qui entendent ça voient plein de concordances, disons. Ouais. Mais c'est pas la reproduction du monde d'aujourd'hui, parce que ce serait un peu trop simple. Mais en tout cas, quand on a lu ce texte, c'est Stéphane Engelberg qui a eu l'idée de ce spectacle, qui est le directeur des Mathurins, donc un théâtre privé où je joue. Rarement, mais j'entends que j'aime bien. Et là, il voulait vraiment dire ce texte maintenant. Quoi. Il voulait même pas attendre le mois de septembre. C'est pareil, quoi. C'était le 1er février.
Il y avait une urgence.
Il y avait une urgence. Il a dit faut jouer ça maintenant. Laurent a fait l'adaptation. Et puis, moi, j'ai lu le livre, les 500 pages, là. Je suis pas un grand lecteur.
L'adaptation fait 30 pages, hein, pour
voilà,
vous montrer un peu le travail de
35,
coup.
35 pages. Près, ouais. Et du coup, j'ai lu les 500 pages, alors qu'en ce moment, je lis pas. J'ai pas envie de lire, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai tout lu. Et j'ai dit, ouais, il faut faire ça maintenant. Et c'est étonnant parce que les gens, ils viennent en masse, alors que moi, je pensais qu'on jouerait ça 2-3 semaines, comme ça. Et en fait, les gens, ils ont... Enfin, il y a des gens qui ont envie d'entendre cette parole-là parce que c'est très visionnaire et c'est très lucide. En fait, il y a aucun glamour, il y a aucun pathos. Enfin, il est juste décrit comme avec un scalpel, on dit, hein, c'est ça, mais enfin comme un chirurgien, quoi, un peu l'état du monde et l'état de l'évolution depuis la fin du 19e jusqu'en 41.
Mais qu'est-ce qui vous a fait penser, Jérôme Kircher, qu'il fallait le jouer maintenant ?
Tu vas voir le spectacle et tu vas écouter, tu vas voir. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui racontent. Ouais, qui raconte la déchéance d'une humanité magnifique. Je sais pas, moi, dans ma génération, moi j'ai 50 ans maintenant, et j'ai vécu vraiment un monde, les années 70, où j'étais tout petit, mais 80, 90, c'était vraiment c'était génial, quoi, quand même. On n'avait pas un souci, non? Vous êtes plus jeune, mais bon, ça marchait, l'économie, la culture, Jack Lang, nanani, on avait tout, quoi. Et tout à coup.
Jack Lang,
c'est non, mais je veux dire, c'est vrai, on pouvait faire des spectacles, vraiment, on avait de l'argent
connu,
pour ça, t'as pas connu,
t'as
un peu plus jeune. Mais quand même, t'as vécu la fin de ça, quand même.
C'est plus dur, même pas.
Il y a cette phrase de Zweig, on ne méprisait pas la tolérance comme un signe de mollesse et de débilité, on la prisait très haut comme une force morale, nulle part il n'était plus facile d'être un Européen. Ouais. C'était ça aussi qui résonnait, cette idée que peut-être l'esprit de tolérance aujourd'hui s'est vu comme quelque chose de mou, de faible.
On s'en fout de la tolérance, surtout on s'en moque beaucoup de la tolérance en ce moment, enfin je veux dire ce qu'on voit dans les émissions, en général c'est plutôt le cynisme, quoi. Maintenant, pour passer bien, il faut être cynique, il faut dire un peu du mal de tout le monde, il faut être intelligent.
Vrai,
actif,
même
l'humour devient un peu sadique.
Oui, allez-y. Oui.
Non, pardon, je rebondissais, oui. J'ai oublié le.
Non, mais je signalais que.
Je savais pas que c'est ping-pong. Hein,
c'est ping-pong. Vous parlez de l'humour à froid qui.
Non, c'est qu'il y a un humour.
On entend résonner dans votre Don Juan Ganarel.
Oh, je sais pas, mais je pense qu'en ce moment, il y a une sorte d'humour assez ironique, assez bizarre.
T'es pas comme ça, tu
Et il y a peu de choses naïves. C'est étrange. Il y a pas de Pasolini, il y a pas de Fassbinder, il y a pas ces artistes-là qui sont très naïfs, qui vont être très frontales. D'ailleurs, pour revenir sur Molière, c'est un artiste très frontal aussi, Molière. Et c'est étrange en ce moment. Les artistes sont plus second degré ou je sais pas. Mais ceci dit, je suis assez d'accord qu'il y a vraiment un parallèle pour revenir sur Zweig avec ces deux époques. Elles ont un parallèle, ne serait-ce que avec l'explosion des découvertes scientifiques. D'un coup, on découvre la vapeur, le monde se rapetisse.
Aussi, mais tu l'as vu le spectacle ou
pas? Non, mais par exemple.
Le paradoxe qui dit, ouais, il le dit à un moment, il dit jamais, je sais pas ce que c'est le texte, j'ai oublié, on est lundi, mais c'est jamais l'humanité n'a s'est révélée si diabolique et n'a dans le même temps accompli tant de miracles.
Voilà. Nous en ce moment on a Google, on a cette idée, le monde qui devient de plus en plus petit. Non, parce que
c'est comme si ça allait trop vite. C'est comme si ça allait trop. C'est des périodes où la technologie avance tellement vite. Que c'était le même avec l'industrialisation et tout ça va plus vite que la pensée en fait. Donc l'homme il est perdu derrière, je pense. Je sais pas, t'as couché, je me dis ça.
Et ça radicalise les gens du coup.
Ouais. Et Vincent Lecaigne, dans votre version de Don Juan, Don Juan S. Ganarel, donc on va pouvoir voir sur Arte jeudi soir, il y a de la technologie, des smartphones qui apparaissent au détour d'une scène, dans le geste d'un acteur. Et vous avez dit que votre projet, c'était précisément de parler à la fois de la France de Molière, mais aussi de la France d'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que vous essayez de nous dire de la France d'aujourd'hui, avec notamment, je sais pas, je pense à vos cavaliers qui ont des allures de clansmen, de membres du Ku Klux Klan, et qui poursuivent de leur haine, Don Juan.
C'est vrai que d'une certaine manière, mais c'est un peu, enfin, c'est toujours malheureux de voir des parallèles entre maintenant, mais il y en aura tout le temps, parce que on est fait comme ça, quoi. Mais il y a comme une forme en ce moment de petite poussée, quand même, bizarrement, en même temps que du cynisme réactionnaire. Ça veut dire d'essayer d'un peu de se rétracter un peu de plus en plus. Et du coup, Don Juan, là-dedans, se met devant ça, en fait. C'est assez beau de se dire aussi que Molière, il écrit Don Juan juste après que Tartuffe soit censuré. Et donc, il se retrouve avec ses acteurs un peu sur les bras et doit trouver quelque chose à faire. Du coup, il se met à écrire Don Juan très rapidement. C'est une pièce qui existait déjà. C'est une adaptation que lui-même fait et qui marchait très bien, en fait. C'est comme s'il prenait, je sais pas moi, enfin, j'exagère, mais Batman. Et il se dit, bon, bah, enfin, un truc, voilà.
On entend une de vos références, votre Don Juan.
Et il y met toutes ses angoisses et sa colère. Et le trajet de Don Juan, c'est assez drôle. Il se souille. Il va dans des sortes de
De lieu de gangbang, on pourrait le dire, non?
Oui, non, mais c'est pas ça, mais genre, il provoque tout le monde, etc. Et petit à petit, il devient Tartuffe. C'est-à-dire que petit à petit, il décide de dire, en fait, si vous n'êtes pas capable de voir la vérité, s'il faut vous mentir, et s'il faut être un hypocrite et se cacher, et devenir un homme de bien, même un homme religieux, mais en continuant d'avoir sa vie, si ça, ça vous va, bah, je vais être ça, en fait. Et en fait, après, ce qui est assez beau, c'est que même Molière, il tue son personnage. C'est-à-dire qu'il dit que c'est pas possible d'être aussi hypocrite. Donc il a quand même une prise de position.
On dit qu'il est arrivé dans un tapis, c'est ça,
Jérôme Kircher?
Ah, tu parles de...
le commandeur.
Le commandeur.
Et je sais que c'est du film, mais je suis prêt de voir cette scène.
Plutôt un linceul, hein, c'est un enterrement de première classe.
Ouais.
En ouverture de
film. Oui, il y a une ouverture. Bon, d'ailleurs,
il faut pas dire la fin.
Alors,
pardon.
Attendez, je vous propose de le regarder. On va regarder une scène avec les oreilles.
Monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve guère votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
De quoi ? De la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle ! Ce sens se mire pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse ! D'être mort ! Non ! Non ! La constance n'est bonne que pour des ridicules. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence. Enfin, il n'y a rien de si doux que le triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire.
Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré...
Bah ! C'est une affaire entre le ciel et moi !
Vous êtes dans la limousine pick-up siglée Harley Davidson de Don Juan de Vincent Macaigne, incarné par Loïc Corbéry, qui ici se dispute avec Sganarelle au volant de la limousine, Serge Bagdasarian. On a affaire ici à peut-être, d'une certaine manière, votre façon de mettre en scène le théâtre, volontiers enragé, volontiers outrageux, un théâtre... de l'excès. Qu'est-ce que, à travers l'excès que vous impulsez en particulier dans ce Don Juan, qu'est-ce que l'excès nous permet de distinguer de ce qu'il y a de plus fragile et de plus subtil chez ce personnage, Vincent Macaigne ?
En tout cas, je ne sais pas, mais que ce soit pour le théâtre ou le cinéma, j'aime bien l'idée, des fois, d'avoir une forme d'excès pour avoir quelque chose de l'ordre du silence juste après. Même après cette scène-là, il va voir Mathurine où il dit pas un mot parce que je cherchais à essayer de traduire son envie son attirance pour une femme qui serait avec quelqu'un. Et donc du coup, j'ai imaginé cette scène-là avec son Mathurine et son ami qui dort comme ça, puis il l'embrasse à travers une fenêtre où il n'y a plus un mot. Et j'aime bien toujours ce contraste-là où il y a une forme d'excès, puis très rapidement une forme de trou d'air comme ça, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Mais ceci dit, ça m'est venu au théâtre parce que j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, le mensonge. Je parlais un peu plus fort pour que tout le monde nous entende au théâtre, et assez normalement je me suis dit, bon bah si on disait vraiment sincèrement ces mots-là, qui sont des mots de théâtre, qui sont des mots quand même plus forts que les mots qu'on dit dans la vie, cette pensée-là quand même qui est plus forte, petit à petit on en vient à parler de plus en plus fort, à crier pour rester un peu sincère. Donc c'est comme ça que ça s'est créé, en tout cas au théâtre, et puis peut-être au cinéma aussi du coup.
Il y a cet excès dans le Don Juan et Sganarelle de Vincent Macaigne, dans l'adaptation scénique du texte de Zweig par Laurent Saxy, qu'il n'y a pas qu'une réflexion politique sur le suicide de l'Europe, hein, mais aussi sur des enjeux esthétiques. Il y a des questions d'écriture de Zweig qui parle de son goût pour la condensation, sa chasse joyeuse aux mots à supprimer, dont l'absence accélérerait le mouvement. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez abordé, ce monologue, Jérôme Kircher, dans un esprit de condensation?
Ouais, un esprit de condensation et de rapidité aussi, parce qu'il dit juste après, moi les seuls livres qui me plaisent, je dis pas le texte exact parce que je m'en rappelle pas, mais c'est le seul livre qui me plaise, c'est quand il vous entraîne à chaque page et vous entraîne jusqu'à la fin sans vous laisser le temps de respirer. Moi j'essaie de faire ça, j'essaie de pas laisser le temps de respirer les
gens. On l'entend.
D'ailleurs, j'ai gardé le rythme maintenant, même le lundi, mais je trace. Au début je faisais une heure huit, neuf, maintenant je fais une heure une. Mais pourtant, mon esprit est plus clair maintenant, bizarrement, mais parce que à force de jouer. Mais j'ai envie d'aller vite et que les gens prennent des... C'est une autre manière, peut-être ça rejoint un peu ta manière, ça veut dire c'est de donner aussi des comment on appelle ça,
des coups.
Moi, je pense au point, des coups, et puis tout à coup de faire résonner un truc. Et quand tu fais résonner ce truc-là, il résonne vachement plus.
Je pense pas au théâtre, moi je trouve ça vachement beau. Des fois, enfin, des filages rapides, très rapidement, pour que la pensée...
En plus, ça marche bien en général.
Ouais. Ouais. Que les acteurs, ils ont une pensée plus rapide, et du coup, quand ils sont sur scène, t'as une forme de...
Il y a des metteurs en scène comme ça qui demandent à faire. Ils disent, allez-y, faites une italienne en place, une allemande.
Ouais.
Dis ça, c'est ça. L'allemande, c'est quand une italienne.
Alors,
l'italienne, c'est quand les acteurs se réunissent et disent le texte sans bouger et sans jouer. On dit le texte. Après, il y a l'allemande. Alors, l'allemande, c'est la même chose, mais sauf qu'on fait les mouvements. Voilà, c'est un peu bête, ça. Mais... Et alors, je crois qu'il y a un autre truc, mais je préfère pas le dire.
La française, on le fait intégralement, c'est ça?
Non, c'est une blague. Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup de la place de l'artiste aussi dans la société.
Oui.
Voilà. Et ça aussi, ça rejoint un peu maintenant. Enfin, c'est assez intéressant. Il dit, est-ce que de telles espèces d'artistes comme ça, qui sont tellement consacrés à leur art, serait possible aujourd'hui? Mais il le dit en 41, quoi.
Mais vous avez retenu quoi justement dans on va dire l'immensité de ce message de Stefan Zweig, qui est à la fois chant du cygne et en même temps chant d'espoir? Il dit, j'espère qu'il y a une parcelle de ce que je suis en train d'écrire qui sera transmis aux nouvelles générations pour qu'on n'ait pas travaillé en vain. Qu'est-ce qui est parvenu jusqu'à vous précisément, si on condensait, Jérôme Cachard?
Je ne peux pas répondre.
Le truc qui vous a le plus touché dans la pensée de Zweig sur ses souvenirs d'un Européen le monde d'hier?
C'est déjà, moi j'ai adoré toutes les rencontres qu'il fait, parce qu'il fait pas mal de name dropping quand même. Tous les gens qu'il connaît, c'est des gens super, super connus, quoi. C'est assez marrant. Chaque page, hein, il rencontre Rodin, machin, Malheur. Il y a pas une personne pas connue qu'il rencontre. Mais alors ça, c'est assez drôle. Non, c'est vrai, c'est drôle. Si tu écrirais ça maintenant, le mec, il rencontre Beck BD, il rencontre tout le monde, quoi. Mais pas des gens pas connus.
Beck BD, Rodin.
Non, je dis ça.
Non,
non, pardon. Enfin, je disais pour dire des gens qui sont très connus, comme ça. Non. Et toutes les rencontres, elles sont passionnantes. Moi, on en a gardé que trois, je crois. Rodin, Freud, et puis un autre. Mais on pourrait toutes les mettre, parce qu'à chaque fois, il tire une quintessence, comme ça, de la personne et de sa réflexion sur la personne, en fait. Il disait d'ailleurs que lui, il conseillait aux jeunes auteurs, aux jeunes artistes, je sais pas comment dire, d'abord d'admirer des gens et de travailler sur leur travail avant de faire soi-même quelque chose, par exemple. Maintenant, on n'entend plus ça. Maintenant, on est jeunes, on fait tout par soi-même, on vire les vieux.
Vincent
Macaigne intervient.
C'est une contradiction, là. Ah. Mais non, parce que c'est quand même très dur. Je trouve. On est quand même à une époque où, pour les jeunes créateurs, c'est très, très dur. Hein, quand
oui,
même.
Non, c'est vrai.
Donc, mais parlons de votre travail de jeune créateur, Vincent Macaigne. On évoquait à l'instant l'art de Zweig de condenser les mots, de condenser ses phrases. Dans votre interprétation, version, métamorphose de Don Juan de Molière, vous condensez le texte dans des images. Est-ce que vous pouvez nous parler, puisque là c'était un travail de cinéaste que vous avez mené pour Arte, de ce travail où vous avez subsumé les dialogues de Molière dans des images. Vous évoquiez tout à l'heure cette fenêtre entre Mathurine et Don Juan.
C'est une réponse, enfin, c'est un peu étrange, parce que c'est toujours, c'est une commande, enfin, je reparle de la commande, parce que c'est une contrainte qu'on nous donne comme un exercice. Et du coup, forcément, quand on lit la pièce, elle dure 3 heures, la pièce, en lisant. Donc, du coup, forcément, de réduire la pièce à 1h40, ça pose des problèmes de dramaturgie. Et en plus, on a le droit de couper ou de transposer des textes, on n'a pas le droit de réécrire. Donc du coup, je pouvais pas résumer une scène par la parole. Du coup, je me suis mis à travailler en me disant, bon, je vais essayer de trouver le geste de cinéma, d'une part. Donc du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je dois ressentir ou entendre, et essayer de le donner à voir, en fait, pour en faire un geste de cinéma. Et après, l'autre chose, c'est que c'est très, très rapide comme travail. Donc, c'est 14 jours, là.
Tournage.
Ouais, de tournage.
Avec la préparation, t'avais beaucoup de préparation?
Non, très peu, justement. On voit très peu les acteurs. Moi, je
jouait chaque soir, en plus.
Ah ouais, en plus, il jouait le soir. Il tournait la journée et il jouait le soir.
Ouais, c'était hallucinant, parce que...
Il prenait beaucoup de drogue. En tout cas, à l'image.
Ouais. J'avais envie de faire aussi cette commande-là pour travailler aussi avec des techniciens, m'entourer, parce que j'ai fait un premier petit court-métrage tout seul, j'avais tout fait seul. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais m'entourer de gens, donc essayer de collaborer avec d'autres gens. Et du coup, en effet, j'ai commencé à une sorte de longue collaboration avec le chef opérateur. Et je pense que c'est un peu fou ce qu'il a réussi à faire, ce qu'on a réussi à trouver ensemble et ce qu'on a réussi à créer comme dramaturgie visuelle dans le film et à retraduire. Parce que finalement, on a aussi traduit beaucoup de choses... En effet, par les plans, la relation un peu toxique de Sganarelle et de Don Gian, on l'a un peu traduit par un long plan séquence, pas parlé, où il y a de la musique, où il danse dans l'hôtel. On essaie de traduire.
Il y a un couple comme... névrotique qui se fait à l'écran, ouais.
Mais de toute façon, la vraie question de Don Gian, c'est, il y a Sganarelle qui juge Don Gian, mais qui reste à le regarder de A à Z. Et il ne part pas. Et il regarde tout ce que fait l'autre. Donc, à un moment donné, on est forcé de se poser la question pourquoi il le regarde et qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'autre agit devant lui, parce que quand même il est tout le temps là et il regarde tout ce qu'il fait, tout ce que fait Don Gian, ce général l'épi.
Mais justement, quand vous aviez envie de le monter au théâtre, ce Don Gian, au départ, du coup, comment ça se passe? Vous parlez évidemment du plaisir de l'équipe de cinéma, donc là, on compense une première frustration, c'est pouvoir enfin faire.
Non,
un
mais
film,
moi, je fonctionne pas. Non, parce que j'ai choisi de faire cette commande. J'aurais pu faire un long métrage classique de cinéma. J'ai vraiment choisi, pour le coup, je réponds, j'ai vraiment choisi de rentrer dans ces contraintes-là, qui sont compliquées, mais moi j'ai choisi ça parce que je voulais pas faire un premier long métrage de cinéma, j'avais besoin de me tester à la grammaire. Don Gian, le thème de Don Gian, il m'intéresse énormément parce que je trouve qu'il est très contemporain sur ce que ça raconte, et du coup moi je travaille sur des thèmes, je travaille pas sur du cinéma ou du théâtre, quoi. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime se tester à la grammaire de ses invités.
À suivre, Marseillaise nue debout et culture contre la barbarie avec nos invités Vincent McCain et Jérôme Kircher.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture de Zoé Sfèze. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde,
bonsoir Zoé.
Bonsoir à tous.
Zoé, ce soir dans votre dossier, vous vous intéressez à la mairie d'Argenteuil qui a décidé d'interdire unilatéralement la projection de deux films très différents dans l'un des cinémas municipaux de la ville. D'une part, La sociologue et l'ourson du duo Étienne Chailloux et Mathias Théry que nous recevions il y a peu ici dans cette même émission. Et d'autre part, 3000 nuits, film inédit en France de la réalisatrice libano-palestinienne Maï Masri.
Alors oui, tout ça, ça se passe donc à Argenteuil, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est dans le Val d'Oise. Donc l'un des trois cinémas d'arrêt d'essai qui dépend de la ville s'appelle là-bas le Figuier Blanc, qui est aussi d'ailleurs une salle de spectacle, qui travaille en collaboration avec plusieurs associations pour donc montrer des films indépendants. Devait donc être projeté dans ce cinéma deux films avec des caractéristiques assez différentes. Il y avait l'association de défense du cinéma indépendant d'Argenteuil qui avait programmé une soirée spéciale débat autour du film Le sociologue et l'ourson, donc de Étienne Chailloux et Mathias Théry, qui donc reviennent sur la période du débat autour du mariage pour tous, et une semaine ensuite de distribution de ce film. C'est ce qui se passe en général dans ce cinéma. Mais fin de semaine dernière, la programmatrice du cinéma Le Figuier Blanc reçoit un mail du cabinet du maire, Georges Motron, cabinet du maire d'Argenteuil, qui annule tout simplement cette séance de Sociologue et l'ourson, toutes les séances presque in extremis, mais aussi celle d'un autre film, donc 3000 nuits de la cinéaste Maï Masri, qui elle, ce film-là, devait faire l'inauguration du festival Ciné Palestine à Argenteuil, soutenu par l'association Argenteuil Solidarité Palestine. C'est un film qui raconte le quotidien en prison d'une jeune femme palestinienne qui est accusée de terrorisme et sa grossesse donc en prison. C'était la seule séance du festival qui était programmée dans cette ville, puisque le reste du festival se déroule entre Paris et plusieurs autres banlieues. Et pour Patricia Roletti, qui est du comité d'organisation de Ciné Palestine, cette interdiction est totalement compréhensible.
C'est le premier long métrage de fiction d'une réalisatrice libano-palestinienne. C'est un film qui a été présenté en avant-première mondiale au Toronto International Film Festival et qui a remporté pas mal de prix que nous, on a choisi comme film d'ouverture parce que c'est un film qui a tout en fait. Il est beau d'un point de vue cinématographique, poignant, bouleversant, une histoire très humaine, une histoire des femmes. Du coup, on pensait que c'était le film qu'il fallait avoir pour ouvrir cette édition. Je comprends pas pourquoi ce film en particulier, franchement, parce que je pense que le film, il a pas forcément des sujets qui puisse inspirer une polémique politique. Il y a des films qui sont plus fortement politique, avec un accent plus fortement politique, surtout si on pense au documentaire par exemple. Cette interdiction, je la trouve choquante en fait.
Et le maire d'Argenteuil, Zoé Georges Motron, n'a pas souhaité expliquer aux deux associations qui avaient monté ces projets pourquoi il avait voulu les interdire. Il ne s'est expliqué qu'une fois dans une interview au Parisien.
Oui, alors absolument impossible de le joindre, aussi bien ni lui d'ailleurs, ni son équipe, ni pour les associations, ni pour nous les journalistes. Et donc dans cette unique interview accordée au Parisien, le maire évoque implicitement sa crainte de voir naître des troubles à l'ordre public, ce qui donc lui donne en droit, eh bien, le droit d'intervenir. Je cite, en ces temps troublés, des sujets tels que ceux-là peuvent rapidement mettre le feu aux poudres dans une ville comme Argenteuil. Dans un souci d'apaisement, la ville a préféré jouer la sécurité en ne diffusant pas ses films et en évitant ainsi des réactions éventuellement véhémentes de certains. Alors René Beretz, lui, il est le coprésident de l'association de défense des films indépendants d'Argenteuil. Il rappelle que la sociologue Elourson est en salle depuis 3 semaines et que jusque-là, il n'y a pas vraiment eu d'incident. Il refuse donc catégoriquement cet argument. Il dénonce une censure tout simplement politique, même s'il reconnaît que jusque-là, il n'avait pas eu à se plaindre de l'équipe municipale.
Non, ça n'était jamais arrivé. On se voit au forum des associations. Vous savez, organiser chaque année la grande fête des associations, le forum au début septembre pour que les gens s'inscrivent, que les associations se fassent connaître. Bonjour, bonjour, ce que vous faites, c'est bien et tout. Bon, voilà, ok, terminé. Non, c'est le premier acte hostile envers nous, officiellement. Bon, maintenant, si on veut creuser un peu, effectivement, c'est un acte politique, quoi. Tournons pas autour du pot, quoi. Ils ont interdit un film qui parle du mariage pour tous. Ils ont interdit un film sur la Palestine. Et nous n'avons aucun argument. Ils se sont exprimés, enfin le maire, je pense que c'est lui, s'est exprimé une seule fois auprès d'un journaliste, point final. Parisien, terminé. Il n'a pas répondu à nos lettres, il ne veut pas nous rencontrer. Non, c'est une censure de type politique par rapport à des sujets qui leur déplaisent. C'est des sujets dont il ne faut pas parler, point final. Donc c'est pour ça que nous, on dit, bah, c'est une censure, quoi. Je veux dire, s'il avait laissé faire, les films seraient passés, on n'en aurait même pas parlé. Là, maintenant, on est en train de faire des actions.
Et cette thèse d'un choix politique, Zoé, semble en cohérence avec la couleur politique de l'équipe municipale d'Argenteuil.
Oui, alors on l'a dit, donc Georges Motron, c'est donc le maire d'Argenteuil. Il est un ancien député républicain, puisque je rappelle qu'Argenteuil, c'est une ville assez populaire qui a été longtemps acquise au parti communiste et qui, donc, ensuite a connu une alternance droite-gauche. Et là, évidemment, c'est la droite, puisque c'est une équipe, les Républicains. Mais on sait de surcroît que le délégué à la culture de Georges Motron, Franck Debeau, a été l'un des plus fervents partisan de la manif pour tous. Mathias Théry, qui est donc le co-réalisateur de la sociologue Elourson, le fils de la sociologue Irène Théry, ne comprend néanmoins pas pourquoi le film lui fait si peur.
J'ai vu qu'il était engagé auprès du parti chrétien-démocrate, je crois, avec Boutin. J'ai vu une vidéo pendant les manifestations où, oui, il déballe tout le laïus de la manif pour tous, bête et méchant. Et donc, ce que je vois dans cette fait qui retire le film, c'est plutôt... le mariage pour tous, pas chez nous. C'est un peu ça le message, quoi. C'est le fait qu'on en parle, même qu'on en parle, ça les, que le film soit un peu présenté comme un film pour cette loi. Mais voilà, comme c'est pas un film qui refait l'histoire en disant voici les bons, les méchants. Oui, ça m'étonne. C'est-à-dire qu'il y a même des gens que on sentait hostiles à la loi qui aiment bien le film parce que on essaye de décortiquer les arguments. Brigitte Bardot n'arrête pas de dire que le film est intéressant parce que on explique ses positions précisément, etc. Et donc, je m'attendais pas du tout à que le film puisse être retiré comme ça d'un cinéma. C'est une vraie surprise. Je suis persuadé que le maire n'a pas vu le film et qu'il sait pas vraiment ce qu'il y a dedans.
Voilà, en tout cas, les deux associations qui étaient à l'origine de ces deux projections ont décidé de tenir une conférence de presse dans Argenteuil demain et surtout, ils organisent une manifestation ce samedi 7 mai avec une promesse de tenter d'organiser une projection en plein air à Argenteuil pour que tous les Argenteuillais puissent avoir accès à ces deux films.
Merci Zoé. On passe au bref maintenant avec une pachique planète.
Tout à fait, puisqu'on ouvre avec cette disparition de cette figure discrète de la pop française, Hubert Mounier, alias Clit Boris, c'était son nom, puisqu'il était chanteur et fondateur en 82 du groupe L'Affaire Louis Trio. Il est mort ce matin d'une crise cardiaque à 63 ans. Je rappelle que ce groupe avec costume années 50 et cheveux coiffés en banane avait remporté en 87 la révélation variété masculine, victoire de la musique pour son album Chic Planète. Après ce succès, il y a eu une très longue traversée du désert pour Hubert Mounier et il était revenu en publiant il y a quelques années la BD La Maison du Pain d'Épices, journal d'un disque qui racontait assez poétiquement les déboires de l'industrie du disque.
Sortir de crise au Corégie d'Orange grâce à l'élection d'une nouvelle présidente.
Tout à fait, rappelez-vous de cette affaire dont on avait parlé ici. L'association des Corégies d'Orange était dans la tourmente après la démission de Thierry Mariani, son président. La municipalité avait tenté de placer à la présidence un membre de l'équipe du maire Jacques Bompard, Ligue du Sud à l'extrême droite, ce qui avait provoqué la démission anticipée du directeur artistique historique du festival Raymond Raymond Dufaux. Finalement, c'est Christine Dingrandeau qui a été élue à l'unanimité pour 3 ans avec l'assentiment de la ville d'Orange. Elle siégeait déjà au conseil d'administration au titre des représentants des adhérents de l'association des Corégies. La Fédération CFDT de la Culture a signé à son tour l'accord trouvé jeudi par les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle. Oui, cet accord qualifié d'historique, on en a parlé jeudi, donc cet accord qui a été trouvé jeudi, qui met tous les salariés et les employeurs du secteur du spectacle d'accord sur le régime de l'intermittence, c'était une première. Mais pour être adopté, cet accord, il doit être signé par tous les syndicats et surtout, évidemment, par le MEDEF. Et ça n'est pas gagné puisqu'il n'y respecte pas la fameuse lettre de cadrage financière du MEDEF. Le fait que la CFDT, qui était le seul syndicat de salariés qui avait signé cette fameuse lettre de cadrage et ratifié l'accord est néanmoins bon signe. Tout le monde attend maintenant le chiffrage de cet accord par l'UNEDIC qui sera donc décisif dans les négociations.
Merci Zoé, on vous retrouve à présent à 19h50 pour le disque du jour.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
La Marseillaise, c'est bon pour les patriotes de tout poil, puisque c'est une Marseillaise entonnée à poil par les comédiennes, les comédiens de votre donjon Esganarelle, qu'on pourra retrouver jeudi soir sur Arte, Vincent Macaigne. Il est question de libertinage, en tout cas d'un libertinage à la mode d'aujourd'hui. L'ombre peut-être d'un Dominique Strauss-Kahn plane sur le Lutetia, puisque tout se passe dans une soirée où on échange toutes sortes de drogues, de substances et de salive et de sécrétions dans l'hôtel Lutetia. C'est donc des libertins version échangiste. On est assez loin des libertins du XVIIe, du XVIIIe siècle. Il y a d'ailleurs cette réplique de Sganarelle qui se plaint des libertins qui ne savent pas pourquoi ils le sont. Quel regard vous portez sur le libertinage?
Si Strauss-Kahn chante la Marseillaise
nu avec ses camarades de jeu.
Avec ses camarades de jeu, ce serait assez drôle.
Je lance une enquête.
Est-ce que les, je sais pas, ça je me demande. J'ai fait ça pour savoir en fait.
Mais nous on se demande.
J'espère que quelqu'un va.
Il y avait une lecture du libertinage à la mode d'aujourd'hui de votre part.
Je sais pas si c'est une lecture du libertinage. Non, parce que je sais pas si ça arrive souvent que des gens se mettent à chanter la Marseillaise après avoir fait l'amour. Mais non, mais c'était de manière.
Si c'est votre cas, vous pouvez écrire à France.
Ça serait. En même temps, ce que j'ai dit, c'est fait pour tout le monde. Hein. C'est un hymne, c'est fait pour tous les citoyens français. Il n'y a pas de raison que ça soit interdit de chanter pour des gens. Non, mais c'est une manière aussi de ramener l'idée d'une France, l'idée d'un niveau social et de plonger comme ça Don Juan là-dedans, en fait. Et de rappeler cette chose-là, qu'on parle bien d'un endroit précis, qu'on parle pas du Québec. Mais ceci dit, pour répondre sur les pères et les fils, juste pour créer du débat, dans Molière, il y a une phrase qui est assez belle, quand il répond à son père, ce qu'il lui dit, qu'est-ce qui se passe, et il lui dit, mais comment tu veux, enfin je résume avec mes mots, mais comment tu veux que moi je vive, puisque maintenant, les pères veulent être plus vivants que leurs fils.
Ça c'est très actuel, ça.
Voilà.
Alors justement,
je fais des passages.
On est dans la France de 2016 et les rapports père-fils avec Vincent Macaigne. On va passer à Londres en 1939. C'est la fameuse rencontre entre Stefan Zweig et Freudin. On le retrouve dans votre Seul en scène, dans votre monde d'hier, Jérôme Kircher.
La première fois que je me rendis chez lui, il me montra ses chères statuettes égyptiennes et me dit en souriant, ne suis-je pas de nouveau à la maison ? Sur son bureau s'étalaient les grandes pages in-folio d'un manuscrit que cet homme de 83 ans rédigeait tous les jours, de sa même écriture nette et arrondie. Au cours des heures inoubliables que nous avons passées ensemble, Freud ne s'étonna jamais de l'éruption de bestialité née en Europe et propagée dans toute l'Europe. On l'avait toujours traité de pessimiste parce qu'il ne croyait pas au pouvoir décisif de la culture sur les instincts. Maintenant, on voyait confirmer de la façon la plus terrible son idée que la barbarie ne peut pas être extirpée de l'âme humaine. Mais il ne tirait aucune fierté d'avoir eu raison avant tout le monde.
C'est le monde d'hier, Stefan Zweig, donc adapté par Laurent Sexic, car c'est un texte de 500 pages, donc qui en fait 35 et qui est porté par votre voix et votre corps, Jérôme Kircher. Il y a cette question donc de Freud qui ne croit pas au rôle de la barbarie, au rôle de la culture pour nous sauver de la barbarie inextricable.
Lapsus.
Oui, pardon, excusez-moi, c'est fou, il faut que je m'allonge. Freud, ouais. De l'âme humaine et cette question des âmes aussi totalement consacrées à l'art serait-elle possible aujourd'hui à une époque qui arrache les hommes à tout recueillement et les jette hors d'eux-mêmes. Stefan Zweig parle de la Vienne cosmopolite, de la Mittel Europa. C'est une question donc, qu'il lance aussi aux générations suivantes. Il demande si c'est une famille sans postérité, cette famille qui croit au rôle de la culture. Vous en sentez-vous dans cette famille?
En fait, Freud, il disait pas que la culture servait à rien.
Non, parce que là,
quand on entend, c'est vrai, on entend un peu ça. Voilà, ça suffit pas, quoi. Que la barbarie, quand elle se réveille, elle est vraiment plus forte que la culture et que la culture, c'est juste un petit truc qu'on peut mettre pour se protéger de ça. Mais en fait, si on le voit, ça aussi, on le voit partout. Et puis, par rapport, je rebondis à un truc que vous avez dit et qu'il a dit aussi, Vincent, sur le nationalisme, le drapeau, là, le truc qui appartient à tout le monde. Je crois que ce qu'il détestait le plus, Zweig, c'était le nationalisme, en fait. C'est-à-dire, il dit toujours que l'Europe, c'est un truc dément et que les gens se rappellent plus que c'était quand il n'y avait pas l'Europe, quoi. Et il le dit toutes les 20 pages, quoi. Il dit, l'Europe, c'est une construction qui est belle, qui rend les gens plus forts et pas plus faibles, comme les gens commençaient à le dire dans les années 30, et comme on le dit maintenant, de plus en plus, on a oublié déjà ce que c'était avant l'Europe, quoi.
Il dit que c'est la pestilence des pestilences.
Ouais, vous connaissez par cœur.
Je connais mon Zweig par cœur. Non, mais.
C'est la pestilence parce que des pestilences, exactement.
Exactement, parce que j'ai révisé, vous savez. Mais il y a aussi cette idée dans ce monde disparu et génial qu'est Vienne à l'époque et qu'il adore, que quand on ouvre le journal, on s'en fiche un petit peu de connaître les dernières guerres, les dernières batailles, les derniers attentats. Non, vraiment, on veut savoir ce qui joue au Burg Theater.
Ouais, c'est
Non, mais. La culture avant tout, c'est encore possible aujourd'hui comme préoccupation numéro.
Maintenant, il dit aussi que à chaque fois qu'on croisait Johannes Brahms et qu'il vous tapait amicalement sur l'épaule, on demeurait hébété pendant une semaine. Maintenant, c'est plutôt Zidane, quoi. C'est ces gens-là, c'est plus tellement les grands musiciens ou les grands.
Ils ont apporté quand même quelque chose.
Hein, c'est pas vrai parce que.
On dit que Freud, il a apporté la peste sur le continent quand il est allé de l'autre côté de l'Atlantique. C'est Bettelheim, un autre psychiatre et psychanalyste, qui fait valoir que Zweig, avec ses contemporains, Freud, Schnitzler, il a préparé à Vienne, dans ce moment et cet espace, la conquête de la parole. Est-ce que vous croyez toujours au pouvoir de cette parole conquérante, vous, l'homme de théâtre, de cinéma, qui vous faites volontiers aussi le corps du texte en comédien, Vincent Macaigne?
Moi, je crois qu'à la parole. Je pense que quoi qu'on fasse, de tout temps, de toute époque, ce n'est que de la parole. On fait de l'art comme des totems. Par exemple, dans Les Maîtres Fous de Jean Rouch, on voit bien une tribu africaine qui improvise.
Une cérémonie vaudou.
Pas vaudou, non, une cérémonie, mais pour exorciser le colonialisme anglais. Et donc, on voit que c'est complètement contemporain ce qu'ils font. Et en fait, on fait que ça, en fait. On est en train de... Quand on écrit, quand on fait un spectacle, un film, n'importe quoi, c'est une parole, de toute
façon. Contre la barbarie.
Même quand on parle pas, même quand il n'y a pas de parole.
Contre la barbarie, comme Zweig. Et Jérôme Kircher.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée de la part maudite dans Bataille, et même l'idée que Malraux a inventé ce ministère de la culture après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était des barbares, et que la culture, et que l'idée de la culture pointue puisse donner... exorciser quelque chose de notre part maudite. C'était un peu l'idée, mais qu'on a oublié parce que le ministère de la Culture et la culture est devenu un acte pédagogique petit à petit. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose. Au début, il disait qu'il faut que tout le monde voit Maria Cazares jouer dans Lady Macbeth. C'est pas la même chose que de voir des spectacles plus ou moins pédagogiques et un peu ennuyants.
Et justement, Vincent Macaigne, moi, je vous avais vu à une représentation des Kings of War, c'est vrai, d'Ivo Van Hove. On voit qu'en ce moment, le théâtre s'empare du thème de la guerre. Il y a eu Edouard Bond qui a été rejoué, Les Derniers Jours de l'Humanité, Milo Rao aussi, qui s'intéresse à toutes les guerres en Europe. Est-ce que justement, ça revient pas aujourd'hui, cet acte, on va dire, de culture contre la barbarie, en prenant en charge ces thèmes-là?
Moi, je suis un peu désolé, mais j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. En ce moment, il y a une forme
de mollesse,
hein, ouais, de mollesse qui est en train de se créer, que ce soit dans les théâtres, le cinéma, pareil. On sait de moins en moins où aller voir des choses. Nous, à cette table, sûrement, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut aller voir. Mais moi, je pense qu'un public normal, il a beaucoup de mal à s'orienter vers des choses. Les lieux de théâtre, ils sont enfin, ils ont jamais été très ouverts, mais ils sont encore c'est difficile de les rendre de les ouvrir. Un lieu de théâtre, normalement, c'est un lieu de révolution, c'est un lieu pour que les gens soient ensemble au même endroit, un lieu où les gens peuvent rester, un peu traîner.
On arrache les fauteuils au théâtre des Mathurins, Jérôme Kircher ?
Non, non, on n'arrache pas les fauteuils.
Par votre faute ?
Non, on n'arrache pas les fauteuils. Ouais, je voulais rebondir sur l'histoire d'Argenteuil, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une censure. Là, on parle d'une censure.
C'était dans le journal de la culture de Zoé Sfez, la censure de la sociologue.
Ouais, parce que c'est vrai que ça paraît effrayant. Et d'ailleurs, Zweig, il en parle aussi. Il dit qu'on a interdit les livres petit à petit, comme ça, on a censuré. Mais il y a aussi la censure économique qui pèse sur la culture terrible. C'est-à-dire maintenant, c'est tellement des grands systèmes d'exploitation économique qu'on peut plus produire des petits trucs, on peut plus faire des choses qui vont être vues dans la plupart des villes.
Vous pensez vraiment que l'industrie culturelle, puisque vous dites que la culture, c'est aujourd'hui de la pédagogie, c'est aussi une industrie. On a beaucoup parlé de créer un ministère des industries culturelles et plus de la culture, qui ressemblerait assez peu sans doute à celui de Malraux. L'industrie culturelle, pourtant, vous vous en saisissez, vous la subvertissez, vous arrivez à monter vos projets.
On y arrive, ouais.
On y arrive, mais c'est...
Mais moi, je pense quand même que, par exemple, pour moi, mon cas, mes spectacles, c'est très très compliqué, ça sort un peu du cadre. Et dès que quelqu'un sort un tout petit peu du cadre, ça pose problème à toutes les structures, en fait, qui ont été... mise en place pour un genre de spectacle, quoi.
Je pensais au cinéma plutôt, en fait, moi, plutôt qu'au théâtre. Ouais, je pensais au cinéma, là, pardon.
Il y a aussi un effet, dans cette mise en scène minimale du monologue de Zweig, il y a aussi un effet à rebours, on va dire, d'autres propositions beaucoup plus spectaculaires. Il y a un parti pris qui est quand même radical. C'était ça aussi qui vous a peut-être saisi. Il y avait l'urgence de le faire, peut-être qui a entraîné ce parti pris radical, mais il y avait aussi une proposition tout d'un coup qui arrache pas les fauteuils, mais qui arrache le décor.
Ouais, qui arrache tout, en fait. C'est la proposition qui est la plus forte que ce qu'on pouvait faire là, parce qu'au début, on aurait pu mettre des vidéos, par exemple, pour faire des parallèles, des trucs, ça aurait été complètement débile, en fait. En fait, il n'y a que le rien, là, qui marche. Et ça marche, c'est ça qui est marrant, c'est que ça marche. Mais on revient à une source, à un truc... ouais, c'est la parole, c'est ce que dit Vincent. Le théâtre, c'est la parole, de toute façon.
L'art, c'est la parole, même. C'est de parler. Ouais. Même quand il n'y a pas de parole. Moi, je trouve que les spectacles de Castellucci, où c'est très bavard, alors que souvent, personne ne parle. Non, je pense que c'est tout le temps la parole.
Et la parole, du coup, dans ce monologue de Stephen Zweig, c'est vrai que vous dites que ça rentre beaucoup en résonance avec les spectateurs. Il y a eu des critiques, effectivement, extrêmement élogieuses sur le spectacle. Il se passe vraiment quelque chose. Vous, est-ce qu'on vous dit des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? Est-ce que vous avez des retours?
Le truc le plus fou qu'on m'ait dit, c'était... Alors là, j'ai même pas compris pourquoi. Il y a une jeune femme qui est rentrée, elle m'attendait à la sortie, elle était en pleurs. Mais elle avait 28 ans, hein. elle était mais en pleurs. Et elle me disait, elle n'arrivait pas à parler, elle venait de Colombie. Alors elle m'a dit, elle pouvait pas parler, donc elle m'a dit, je lui ai dit, écrivez un mot, je sais pas quoi. Puis après, elle a réussi à parler un peu, mais pas très bien. Mais elle me racontait que ce qui se passait en Colombie, ça l'avait complètement transporté là. Alors, je connais pas la Colombie, mais... Ouais, ça, c'est le truc qui m'a le plus frappé. Enfin, j'ai pas compris.
Apparemment, elle peut ressembler, en tout cas, à l'Europe suicidée de Stephen Zweig. Ping-pong. c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous les deux. Dankeschön. Grazie mille, comme disait Don Giovanni. Jérôme Kircher, vous êtes donc seul en scène pour donner de la voix au texte de Stefan Zweig, Le Monde d'hier. C'est au Théâtre des Mathurins jusqu'en juin. Et vous, Vincent Macaigne, votre Don Juan et Sganarel, c'est jeudi soir à 22h50 sur Arte.
Le ping-pong est une parole radiophonique qui se construit en équipe et qu'à l'équipe, à la réalisation, Aïssatou Ndoye, ah non pas du tout, à la rédaction, Aïssatou Ndoye, Hélène Dely et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale, c'est bien lui, Thomas Beau, à la prise de son ce soir, Bruno Gagnat-Fontanil et Élise Leu.
Le ping-pong se pratique aussi sur le réseau interconnecté pendant l'éternité et un jour sur franceculture.fr, mais quid de notre beau mardi, Mathilde?
Un mardi avec une fille égarée et un jeune loup malgré lui, Rachel Lang et Salomé Ri. Richard pour le film Baden Baden et Pio Marmaille pour le film Vendeur.
Et toujours avec la compagnie de la troupe de la Comédie Française sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès.